franceinter.fr.
Bonjour, bienvenue chez moi. Ce sont mes studios qui sont dans le 12e arrondissement de Paris, pas loin de, du site où il y a la foire du trône. Et c'est mon vrai chez moi. J'allais dire c'est mon deuxième chez moi, mais en fait c'est mon vrai chez moi parce que je passe beaucoup de temps à créer, à travailler. Alors, faut me suivre. Faut un peu baisser la tête parce que quand on descend dans le sous-sol dans lequel se trouve le studio, la hauteur du plafond est un peu moins élevée. Et là, forcément, le son résonne de manière un peu différente. Ce qu'il y a de bien, c'est que, étant un label indépendant, familial, on n'a pas les moyens d'une maison de disques pour avoir un studio comme les grands studios parisiens, comme Plus 30 ou le studio d'Avou, etc. Du coup, on a décoré comme si c'était un appartement. J'ai pas mal d'effets personnels. Moi, par exemple, je suis fan de Liverpool et ici, dans la cabine d'enregistrement, il y a l'écharpe des matchs, il y a des tableaux que m'offrent les jeunes quand je vais faire des concerts. C'est vraiment très familier. Le but, c'est de se sentir à l'aise. Je voulais que dans ma cabine d'enregistrement, je me sente comme chez moi. Il n'y a jamais de fenêtre dans une cabine d'enregistrement pour le bruit et l'isolation. Ben moi, quitte à ne pas avoir de fenêtre, ben j'ai mes petites fenêtres culturelles, j'ai mes CD, j'ai mes vinyles et j'ai mes livres, effectivement. J'en profite d'être ici dans cette petite bulle-là pour les découvrir parce que j'ai l'impression que c'est encore plus exalté. Et du coup, j'ai quelques livres, puisque vous êtes venus, qu'on puisse partager ça en piquant quelques-uns que je suis en train d'éplucher et de découvrir en ce moment. Ce soir, je vais vous présenter ce livre, Congo, une histoire, de David Van Reybrouck. C'est un auteur belge néerlandais qui a écrit un livre très bien renseigné sur le Congo. Ça se voit qu'il est fasciné par le pays et par son histoire. Il y a toujours eu un décalage dans la perception de ce qu'on voit du Congo et de ce qui s'y passe vraiment. Moi, en tant que Congolais, parce que je suis né au Congo et j'ai grandi au Congo, à Kinshasa exactement, à travers la littérature, ouais, effectivement, je me rattache à ça. Et c'est pas pour rien que ce bouquin, il est à mes côtés et que je le grignote un peu à chaque fois que j'ai l'occasion et que je suis posé sur mon canapé dans cette cabine studio. J'ai choisi l'introduction parce que l'arrivée et l'introduction amènent la vision sauvage et brute de ce pays. C'est-à-dire on est dans une description de cette nature sauvage, forte. Et maintenant, le temps de la lecture, le temps de m'écouter vous lire l'introduction de ce Congo, une histoire. C'est encore l'océan, bien sûr, mais manifestement, il n'est plus le même. Sa couleur a changé. Les vagues, larges et basses, continuent d'onduler gentiment. On ne voit encore que l'océan, mais le bleu se tache peu à peu de jaune. Cela ne donne pas du vert, contrairement au souvenir que nous a laissé la théorie des couleurs, mais un résultat trouble. L'azur éclatant a disparu. Les rides turquoises, sous le soleil de midi, se sont effacées. Le cobalt insondable d'où surgissait le soleil, l'outre-mer du crépuscule, le gris de plomb de la nuit, terminé. À partir de maintenant, tout n'est que soupe. Une soupe jaunâtre, ocre, rouille. On est encore à des centaines de milles marins de la côte, mais on le sait déjà, ici commence la terre. Le fleuve Congo se jette dans l'océan Atlantique avec une telle force qu'il change la couleur de l'eau sur des centaines de kilomètres. Autrefois, le voyageur qui se rendait pour la première fois au Congo en paquebot se croyait presque arrivé à la vue de cette altération. Mais l'équipage et les habitués de la colonie faisaient vite comprendre aux nouveaux venus qu'ils avaient encore devant lui 2 jours complets de navigation, 2 jours au cours desquels ils verraient l'eau brunir, se salir toujours plus. Debout contre le bastingage à l'arrière du bateau, ils remarquaient le contraste de plus en plus frappant avec l'eau bleue de l'océan que l'hélice continuait à faire remonter des profondeurs. Au bout d'un certain temps, de grosses touffes d'herbe dérivées au fil d'eau, des mottes, des îlots que le fleuve avait recrachés et qui à présent perdus dans l'océan, ballottaient au gré des flots. À travers le hublot de sa cabine, il distinguait des formes lugubres dans l'eau, des morceaux de bois et des arbres déracinés arrachés depuis longtemps à la sombre forêt vierge car les troncs noirs avaient perdu leurs feuilles et les moignons dépouillés de grosses branches tournoyaient parfois à la surface avant de replonger. Les images satellites le montrent clairement. Une tache brunâtre qui, au plus fort de la saison des pluies, s'étend sur 800 km à l'ouest. On dirait une fuite du continent. Les océanographes parlent d'éventail du Congo ou de panache du Congo. Quand j'ai vu pour la première fois des photographies aériennes, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une personne qui se serait tailladé les poignets et les maintiendrait sous l'eau, mais éternellement.
À demain et j'espère qu'on se reverra pour de nouvelles aventures littéraires.